Bonjour à tout le monde. Ah, bonjour. Je dirais que vous n'êtes pas là. Merci. Alors, je bénis le Seigneur de m'avoir permis encore une fois de vous partager la parole qu'il a mis à mon cœur. Comme vous allez le voir, peut-être vous allez avoir les différentes versions, mais le message ne change pas. Ça dit tous la même chose.
Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vérité présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue.
Amen.
Amen.
Merci beaucoup, c'est tout. Merci. Ça, c'est un message que je vais qu'on partage ce midi. Si vous regardez bien, je dirais que c'est la suite. C'est une série des recommandations que l'apôtre Paul a donné à son fils spirituel Timothée, car il pense que c'est lui qui allait prendre le flambeau. Alors, si vous lisez Timothée 1, Timothée 2, vous allez voir tout un paquet de recommandations, tout un paquet de conseils que l'apôtre Paul lui a laissé quand même pour pouvoir exercer ses responsabilités en tant qu'un bon responsable, un bon dirigeant. Alors, dans le passage du jour, je l'ai intitulé « Exerce-toi à la piété ». Exerce-toi à la piété. Dans d'autres versions, vous allez voir comme la version que j'ai dit « Entraîne-toi ». Ça dit la même chose. Quand on dit exerce-toi ou bien entraîne-toi, c'est seulement pour te dire, pour vous dire, pour nous dire une sorte d'insistance, de répétition à faire quelque chose, afin que tu puisses quand même arriver à un niveau de performance souhaité. Mais avant d'entrer en détail, comme j'ai utilisé bien sûr j'aurais souligné dans le titre « Exerce-toi à la piété », j'aimerais qu'on explique aussi c'est quoi la piété. Dans le nouveau dictionnaire biblique, édition Emmaüs, ils disent « La piété, c'est une vénération faite d'affection et de respect envers Dieu et les parents ». Mais peut-être le test, la définition du dictionnaire ne dit pas grand-chose. J'ai essayé de regarder même dans d'autres dictionnaires. Ça ne dit pas grand-chose. Mais le mot, pour nous les chrétiens, c'est un mot familier, je dirais, qu'on connaît. Si on te demande de définir ce mot, je suis sûr que tu vas donner une très bonne définition. Moi, dans mes mots, je vous dirais que la piété, c'est une vie spirituelle qui plaît à Dieu. Si on peut résumer, peut-être on va regarder plus tard quelques pratiques pour bien sûr atteindre la piété, mais je résume la piété comme une vie spirituel qui plaît à Dieu. Donc, selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement l'apôtre Paul qui invitait Timothée à vivre une vie de piété. Si vous lisez aussi dans Osée 6, verset 6, vous allez voir que même Dieu, il réclame la piété envers son peuple. Il dit, j'aime la piété et non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu J'aime la piété et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Vous savez que dans l'ancien temps, quand quelqu'un péchait, ils avaient l'habitude de donner des sacrifices d'animaux ou bien d'autres choses qu'ils avaient déjà, qui étaient déjà installées. Donc il y avait tout un procédé pour les gens qui peut-être ont tombé dans le péché, dépendamment de leur situation financière. Il y avait toutes sortes de sacrifices qu'ils pouvaient donner. Mais Dieu, au-dessus de tout, il dit clairement que ce n'est pas ça qu'il veut de son peuple. Il veut surtout la piété. Il voulait plus que leur vie puisse plaire à lui. Ce n'est pas des choses matérielles qu'il s'attendait à son peuple. C'est plus une vie sainte. C'est une vie une vie selon sa volonté. C'est ce que ici le texte nous dit. Le Seigneur recherche un errant du cœur, un dos de l'être tout entier, au lieu d'une religion formatiste, accomplissant mécaniquement les sacrifices ordonnés par la loi. Comme je vous ai dit, la loi disait rester toute une liste des choses qu'il faut faire une fois qu'on a péché. Mais le Seigneur nous dit, il a dit dans l'Ancien Testament, mais il nous dit aussi aujourd'hui que ce n'est pas des choses matérielles qu'il veut, c'est plus notre piété, c'est notre obéissance à lui qu'il a besoin de nous. Je me suis posé une question alors, est-il nécessaire vraiment de vivre une vie de piété? Comme on va le voir, c'est vraiment nécessaire en tant que croyant. Parce que c'est ça, il a dit, quand l'apôtre Paul disait à interpeller Timothée de vivre cette vie, il disait que c'est un moyen de rester attaché à Dieu. C'est un des moyens de plaire, de vivre selon la volonté de Dieu. De plus, il dit que c'est cette vie de piété, garantit non seulement la vie présente, mais aussi celle à venir. Dans ses lettres, Paul utilise souvent des comparaisons sportives, mais il ne s'oppose pas au sport, il faut le comprendre. Mais il veut seulement souligner la distance qu'il faut mettre en tant que croyant dans nos pratiques du monde et nos pratiques spirituelles. J'aimerais prendre aussi cet exemple que Paul a donné, l'exemple il a donné quand même beaucoup des exemples dans plusieurs lettres qu'il a écrites, là où il comparait un chrétien à quelqu'un qui est dans la course, qui se prépare à un championnat. Donc, si vous lisez dans les lettres, il y a pas mal des exemples sportifs que l'apôtre Paul a donné. J'ai voulu aussi utiliser des mêmes exemples pour comprendre notre sujet, notre titre ou bien notre message du jour. Comment pouvons-nous nous exercer à la piété? Quand quelqu'un vient à se préparer à un championnat ou bien à une autre type d'évaluation dans n'importe quel domaine, il faut qu'il se prépare, il se pratique, il prend son temps pour si c'est disons la course, s'il doit participer dans un championnat de football, il prend un temps pour se préparer
à ce championnat ou bien à la course quelconque. Dans ces préparations, nous allons voir des choses très importantes auxquelles il doit tenir compte. Ce n'est pas comme on lui dit seulement tel jour, telle date, tiens, une compétition, ou bien tu vas passer une évaluation quelconque et qui se réveille le matin le même jour pour aller faire ou bien passer cette compétition. Ça prend du temps, ça prend une sorte de préparation, de préparatif. Mais l'apôtre Paul, quand il donnait cet exemple, lui, il a donné l'exemple surtout pour les gens qui se pratiquent pour des compétitions sportives, là où la personne est demandée vraiment d'utiliser, de préparer, de s'entraîner, de pratiquer avec son physique. Il dit que ça prend un temps. Ça prend un temps pour te pratiquer. Ça prend aussi la discipline. Pour participer, par exemple, à un championnat, à un marathon, les gens prennent un bon moment en pratiquant dans les différentes places, dans les montagnes. Donc, en se pratiquant, peut-être au début, la personne commence sans endurance, mais avec le temps, à force de pratiquer, à force de le faire régulièrement, il arrive maintenant à entraîner son corps pour ne pas se fatiguer avant qu'il arrive à la destination. Mais il faut comprendre que ça prend un moment, ça prend une discipline, ça prend aussi des fois une sorte de nourriture différente. On ne peut pas manger comme on mangeait d'habitude. Donc il y a une sorte, même j'ai appris que même pour les gros championnats, pour les compétitions de football, il y a quelqu'un qui est là pour préparer à manger, pour voir une personne, par exemple, qui se prépare au championnat de football, à un marathon, comment il va manger, quelle quantité de calories il a besoin par jour. Donc, il y a toute une discipline là-dedans pour préparer cette personne, pour préparer son corps, pour qu'il soit fit physiquement, pour pouvoir, bien sûr, gagner, si c'est la médaille, ou bien gagner un championnat. Mais pour vous dire que ils font un exercice, ils font un temps, il faut mettre un effort considérable pour avoir à un niveau quelconque pour pouvoir réussir. Mais toutes ces choses-là, l'apôtre Paul, comme nous l'avons lu, il dit oui, c'est important, c'est bon. Ça peut faire du bien à nous, à notre santé, à nos corps. Ça peut même nous rapporter des médailles, ça peut nous rapporter de l'argent. Mais il dit que c'est pas vraiment important, c'est pas trop important, parce que il dit c'est important, mais sur terre, ça finit avec, je dirais, le temps que la personne est encore apte à faire ces choses. Si c'est un footballeur, ça finit avec le temps où la personne peut encore participer dans le championnat. Je peux donner peut-être l'exemple. Quand j'étais à l'école secondaire, disons dans les années 2000, on attendait souvent, je ne suis pas quand même un fan de football, mais à l'école, j'attendais quand il y avait des championnats au niveau mondial, j'attendais des noms qui sautaient dans mes oreilles. Il y avait des noms vraiment pour les fans de football, vous connaissez, que ce soit en Afrique ou en Europe, là où ces jeux sont développés. Il y a des noms qui étaient là en 2000, mais qu'on n'entend plus, qu'on n'en parle plus aujourd'hui. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, donc c'est ça, la pratique du corps, ça a son importance, mais c'est limité. Comme je vous le dis, moi j'attendais, je ne sais pas, Okocha c'était de quel pays, c'est Okocha, je prononce peut-être mal, Nigérien. Donc c'est un nom que je ne peux pas oublier, parce que à mon âge là, de 12 ans, à chaque fois on passait, on attendait Okocha, Okocha, Okocha. Même si je ne reconnaissais pas, je connaissais même pas d'où il venait. Mais parce qu'il était arrivé au top, il avait pris son temps vraiment pour, je dirais, s'exercer. Il était célèbre à cause de la formation, de la compétition qu'il avait faite. Mais aujourd'hui, on ne l'entend plus. Il y en a beaucoup, il y a pas mal d'autres personnes comme ça. Ce n'est pas seulement dans le football, même dans la musique. C'est vrai que les chants, ça reste, mais la façon dont peut-être on parlait de Michael Jackson, à son époque, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc je pense que vous comprenez ce que Paul voulait vraiment expliquer. Donc ce n'est pas qu'il négligeait toutes ces pratiques, ce n'est pas qu'il négligeait les choses qu'on peut faire, bien sûr, dans cette vie que nous vivons, mais c'était pour dire qu'aux chrétiens, pour nous les chrétiens, il faut viser plus aux choses qui sont importantes aujourd'hui, mais aussi qui sont importantes dans le futur. Si je dis dans le futur, c'est après la mort. Amen. C'est ça qu'il voulait, que l'apôtre Paul voulait souligner. Vers la fin, je vais aussi vous parler maintenant comment on peut, si nous voyons que tous ces gens-là qui veulent arriver au top dans leur domaine de formation, dans leur, ce n'est pas seulement dans les championnats, même si tu veux être, je veux dire, un bon économiste, un bon comptable, donc, tu dois pratiquer. Tu ne peux pas dire, oui, j'ai fait l'école j'ai fini mon université en 2000. Donc, la connaissance que j'ai acquise en 2000, ça suffit. Je vais travailler, mais parce que, avec le temps, il y a la technologie qui s'installe dans ton domaine. Donc, il faut te pratiquer. Il faut te pratiquer à chaque jour. Alors, si tu veux arriver au top, si tu veux que tu sois célèbre dans ton domaine, donc il te faut coûte que coûte te pratiquer, et cela régulièrement. Maintenant, nous allons voir ça. Tout ce que je disais, c'est justement comme Paul disait, c'est les pratiques des choses d'ici-bas, du monde, les choses qui nous aident à vivre, les choses qui nous apportent de la gloire, mais toutes ces choses, comme il a dit, qui finissent sur terre, qui finissent quand on n'a plus de force pour, je dirais, participer. Si c'est le football, je pense qu'il y a un âge qu'on ne peut plus jouer au football. Si c'est le domaine musical, il y a un âge où c'est difficile encore de chanter comme on chantait à ta jeune âge. Donc, ça a un limite. Maintenant, si les gens se pratiquent de cette façon, pour accueillir des choses qui vont périr, qui vont rester. Vous savez qu'à Omer, même si tu as acquis tu as acquis beaucoup de choses sur ce monde, tu as eu des maisons, tu as eu des hôtels, tu as eu des voitures de luxe, qu'à Omer, on laisse tout. Il n'y a rien vraiment. J'ai jamais entendu quelqu'un qu'on a enterré peut-être dans sa voiture de luxe ou bien dans sa maison et on dit personne ne va plus entrer dans cette maison, personne ne va utiliser cette maison. C'était pour le monsieur ou la madame, c'était pour lui. Donc une fois qu'on meurt, on te sort ni comme on est venu. C'est comme ça que Job a dit, on te sort ni et puis on t'enterre. Donc, ces choses-là, ces pratiques qu'on avait faites, toutes ces acquisitions qu'on avait eues, donc ça reste aux autres. Ça, son importance est finie par là. Et maintenant, c'est là où ça devrait commencer maintenant. Ce que Paul a souligné ici, ce qui touche même là la vie future pour nous les chrétiens. Comment le faire? Comment pour nous les chrétiens, comment on peut vivre le présent? Comment on peut aussi vivre la vie comme tout le monde, mais en plus de ça, vivre une vie de piété qui va nous permettre même de vivre là au-delà, de vivre même après la mort, au moins de gagner, non seulement dans le monde, mais aussi après notre départ d'ici sur terre. Il nous faut apprendre de cet exemple de ce qui se passe dans le monde pour pouvoir nous exercer, pour bien sûr nous préparer pour la vie future, pour la vie qui ne périsse jamais. J'aimerais alors vous amener au prochain diapo, là où on va voir quelques pratiques de la piété. Nous avons vu comment les autres pratiques, et vous le savez déjà. Maintenant, nous allons voir en tant que chrétien, même si tu es un chrétien footballeur, l'apôtre ne nous empêche pas de nous pratiquer, même d'arriver au top. Mais au-dessus de tout ça, il faut savoir qu'on a d'autres choses à faire. C'est ça que je vais vous partager. Donc, comment maintenant nous exercer? Comment nous entraîner pour vivre cette vie de piété que l'apôtre Paul nous invite à vivre? J'ai souligné quelques points, vous pouvez aussi peut-être ajouter, mais c'est les principaux. Les pratiques de la piété, j'ai souligné la prière et le jeûne, c'est la première chose qu'il faut. Tantôt pasteur nous disait que depuis un moment, dans notre église, c'est comme une campagne. Donc, on s'encourage de prier parce que c'est la clé. C'est la clé. Donc, tout tourne autour de la prière si on est chrétien. Alors, dans cette pratique de la piété, la prière joue un grand rôle. La prière, j'ajoute aussi le jeûne. Si quelqu'un peut-être peut aller vite dans Daniel 6, 11, ça pourra aussi nous aider à comprendre pourquoi. C'est un exemple que j'ai tiré pour vous montrer que ça prend une habitude. Ça nous demande vraiment de le faire régulièrement. Si quelqu'un est là, il peut nous lire juste oui, le verset 11, je pense, oui. Daniel, oui. Daniel 6, verset 11.
Je vais le lire.
Oui.
Donc Daniel chapitre 6 verset 11 qui dit quand Daniel apprit ce que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant.
Amen. Amen. Donc, j'ai pris cet exemple de Daniel. Ce n'est pas le seul dans la Bible. Mais ça nous montre comment ce Daniel-là avait déjà eu cette routine. Je dirais que c'était entré dans sa routine. C'était devenu un mode de vie. Parce que la Bible nous dit qu'il le faisait comme avant. En fait, ce qui s'était passé, c'est que on voulait, les collègues avaient eu jalousie contre lui, et puis ils ont demandé au roi de mettre en place une loi qui interdisait les gens à prier, à adorer qui que ce soit que le roi pendant 30 jours. Mais parce que ils avaient trouvé ça comme la Bible nous dit qu'ils ont cherché d'autres choses qui pouvaient accuser Daniel, ils ne trouvaient rien. Donc il s'est dit il faut que donc on l'attaque à partir de ce qu'il aime faire, parce que c'était vraiment rendu l'habitude, tout le monde le connaissait de ça. On savait que si tu touches à son Dieu, ça va pas arriver. Alors c'est ça, et ils se sont mis d'accord qu'on va l'attaquer à partir de son Dieu. Alors c'est comme ça qu'ils ont dit, ils sont partis dire au roi que ça serait vraiment merveilleux, ça serait bon que tout le pays vraiment puisse prier le roi pendant 30 jours, même s'ils avaient d'autres dieux, mais qu'on laisse de côté tous ces dieux et qu'on adresse les prières, l'adoration au roi. C'est là où le pasteur vient de nous lire. Quand Daniel a entendu ça, la Bible nous dit que ça n'a rien changé à sa routine. Il a prié, même la Bible nous dit qu'il a ouvert maintenant les fenêtres vers Jérusalem, donc pour que tout le monde entende qu'il est en train de prier. Donc, il prie comme d'habitude. Donc, c'était devenu une routine. Personne n'allait l'empêcher de le faire. La Bible nous dit trois fois par jour. Et si on dit trois fois par jour, c'est pas une prière comme on a l'habitude de le faire peut-être le matin, on se réveille vite, vite, et on prie, Seigneur Dieu, aide-moi, je vais sortir. Donc, bref, ce n'est pas une prière qu'on fait à midi, Seigneur, merci de nous donner à manger. Des fois, on oublie même, ce n'est pas de telles prières. La Bible nous dit, quand la Bible dit de prière, ça veut dire que Daniel allait dans sa chambre, il prenait le temps de méditer, de prier, donc ça prenait un moment. Donc j'ai appris une chose, vraiment, ça nous manque pour nous les chrétiens, mais j'ai appris une chose chez les musulmans. Chers musulmans, je pense que je vous ai raconté quand j'allais encore faire l'expérience dans des écoles. Un jour, un enfant j'étais en troisième année, je pense, 10 ans comme ça. Et puis à l'école, c'était à Laval, à l'école, donc quand c'était la récréation, tout le monde devait sortir. Tous les enfants devaient aller à l'extérieur. Et puis, c'était en hiver en plus. Et puis, c'était à 3h, c'était l'heure de sortir. Je dis, je sors tout le monde, mais je vois un garçon qui ne veut pas sortir. Je dis, monsieur, il faut sortir. Il me dit, non, je ne sors pas. Je dis, pourquoi? Il me dit, c'est l'heure de prière. Quoi? Ça m'a un peu étonné. C'est l'heure de prière, je veux prier. Et puis, je dis, est-ce que tu as la permission? Il me dit, non, je vais prier. Donc, vous savez, des fois, les enfants disent, oh, c'est l'auto. Puis je vais prier, je dis, ok, attends, je le laisse. Et puis je vais à la direction, je dis, je demande à la directrice, parce qu'il fallait quand même me couvrir. Et puis je dis, il y a un tel qui a refusé de sortir. Il me dit qu'il fait la prière. Est-ce que c'est, vous l'avez permis de refaire, c'est son habitude? Il me dit, ils étaient étonnés, tout le monde était étonné. Il dit, non, c'est quoi ça? Il me dit, mais peut-être il veut profiter parce que tu es nouveau, tu ne connais pas, mais d'habitude tout le monde sort. Sachez que quand je sortais, je lui ai dit, je vais informer la direction. Je pense que peut-être en attendant le mot direction, il a ressorti. Puis on est venu, toute l'équipe là, tout le monde est venu. Les gens qui étaient du moins avec la directrice. On est venu, on l'a vu, il était dans le coin. Avec la petite natte là qu'ils utilisent, il était en train de prier en bas. Il était en train de prier. Il ne s'intéressait même pas à nous. On est entré. Tout le monde était là. Et puis, ok, la directrice s'est mise. Donc, c'est sauté. Tout le monde l'a laissé. Et puis, elle a fait sa prière. Tranquillement. Quand il a terminé maintenant, il s'est levé, il a préparé sa nappe, puis la directrice maintenant l'a appelé dans la direction pour lui demander ce qui s'est passé, pourquoi il fait des choses contre la loi, des choses comme ça. Mais je souligne ça pourquoi. J'ai vu à partir de cet enfant de 10 ans, imaginez, de 10 ans. J'avoue qu'il ne sait même pas ce qu'il fait. Non. C'est juste que chez lui ou dans sa famille, ils ont cette routine de prier, je ne sais pas, autant de fois, de dire que terre, même si tu es dans, je ne sais pas où, il faut prier. C'est ça, c'est comme ça qu'il a prié. Mais imaginez-vous si nous, les chrétiens, on adopte cette habitude. Maintenant, prier. Avec inspiration du Saint-Esprit, sans que ce soit bien sûr une routine, je ne dis pas qu'on va fixer les heures. Non, je voudrais dire, imaginons maintenant si on a cet esprit qu'on doit quand même mettre sur place un temps et un moment dans la journée, tous les jours et qu'on ne saute pas. Ça serait quelque chose vraiment miraculeux. Malheureusement, cela nous échappe. Cela nous échappe. Mais si ça nous échappe, il faut savoir que c'est un manque de notre part. Et pour atteindre cette piété, c'est ça qu'il nous faut. Il faut le faire. Il faut le faire, on n'a pas le choix. Comme un footballeur, il ne peut pas sauter aucune journée. Quand il se prépare pour les matchs, pour un grand match, ou bien un marathonnier, il ne peut pas sauter aucune journée. Donc, il y a une sorte de discipline qui s'est fixée. Il doit le faire coûte que coûte. Alors, pour nous les chrétiens, on manque cette rigueur, mais si on veut vraiment vivre une vie de piété, il faut le faire. Alors, j'avance vite. La méditation de la parole, c'est une chose aussi. Pendant qu'on fait la prière, bien sûr, il faut méditer la parole. Il faut quand même prendre son temps de lire et méditer la parole. La confession des péchés aussi, c'est une autre chose. Donc, vous savez, quand nous prions, on nous a appris les étapes qui composent la prière. Donc, je pense que tout le monde le sait. Mais il faut faire une sorte, une confession qu'on ne nous a pas dit. Mais quand tu vas prier, il faut savoir que tu es. Tu es devant le Saint des Saints. Il faut d'abord te préparer. Il faut savoir qu'on est pécheur. On est pécheur de nature. Donc, quand tu vas maintenant prier, faire la prière, on doit confesser nos péchés. Et puis, un autre point que j'ai souligné, c'est la communion. La communion. Que ce soit, ça inclut la Sainte Cène, ça inclut la communion fraternelle comme on le fait. Donc, c'est des choses, c'est toutes ces pratiques qui nous aident vraiment à vivre une vie de piété. Donc, quand ça devient régulière, ça devient une routine dans notre vie, maintenant, on arrive à un point où on plaît à Dieu à tout moment. Souvent, pour nous les chrétiens, des fois, il y a les choses qui arrivent pendant que je parle. La majorité de nous les chrétiens, on a la misère à répondre à une question qui nous est posée souvent, de dire, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel une fois que tu meurs? C'est une question, des fois, qui semble difficile et que la majorité de nous chrétiens n'arrive pas à répondre. Parce que on n'a pas cette assurance. Des fois, quand on nous pose une telle question, on commence à retourner, donc à faire une sorte de rétroaction. Voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que tu regardes, qu'est-ce que. Depuis quand j'ai fait de telles choses, non. Donc on hésite. Mais je vous dis, une fois qu'on a fait toutes ces choses et que ça devient une sorte de un mode de vie pour nous, cette question ne sera plus difficile parce que déjà tu es prêt à partir. Tu es prêt, donc tu vis avec Dieu en quelque sorte. Tu vis avec le Seigneur ici sur terre. Alors si quelqu'un te dit, est-ce que tu peux aller au ciel si tu meurs, tu n'as même pas besoin de répondre. Parce que déjà, tu vis une vie avec lui ici sur terre. Si tu meurs, tu vas seulement, je dirais, te déplacer un peu. Sinon, tu vis avec lui. Donc, vous comprenez quand même ce que je vais expliquer par rapport à ça. Alors, dernier point que j'ai souligné, c'est l'amour. Donc, si on fait tout ce qu'on peut faire, sans l'amour, c'est vain. Donc, ça, c'est indiscutable. Donc, ces points 6 ou 5 que j'ai soulignés et d'autres choses que vous pouvez... peut-être tu aurais dit, tu n'as pas marqué la louange. Oui. Dans la prière, on loue le Seigneur. Donc, c'est des choses qui ça inclut beaucoup de pratiques. Ici, vous pouvez quand même faire pas mal de choses. J'ai souligné ça pour que on puisse commencer à nous exercer. Peut-être vous le faites, mais continuez. Continuez parce que la Bible nous le demande et notre engagement aussi. Notre engagement. Si nous sommes décidés de devenir chrétien. C'est ça qu'il faut. S'il n'y a aucun footballeur qui peut dire, ok, je vais faire partie d'une équipe, je vais arriver au top, et qui ne fait aucun entraînement, ou bien qui fait un entraînement une fois au mois, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous tous, vous le comprenez. Pour terminer, c'est ce que je disais, j'ai dit comme on peut le comprendre dans le mot exercice, bien sûr, exercice. La piété n'est pas une action d'une seule fois. C'est pas quelque chose qu'on peut, une action qu'on pose une fois pour toutes et on devient pieux. Non. Elle est plutôt une pratique continue qui devient à un moment donné un mode de vie, comme je l'ai souligné. Alors, que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous parce que c'est un défi pour nous tous. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Je vais prier. Je ne sais pas comment vous allez orienter votre prière. Si vous manquez quelque chose, s'il me manque quelque chose, c'est le temps de prier, de demander à Dieu de nous aider à pouvoir le faire. Parce que je sais que prier, ce n'est pas l'amusement, ce n'est pas quelque chose de... prier, si on te dit d'aller prier, c'est pas comme on te dit d'aller au magasin, non. Si quelqu'un te dit, on va au magasin, si tu as dit, donc tu n'hésites pas. Ou bien aller au cinéma, on n'hésite pas. Mais quand on dit, venez à la prière, c'est difficile. Donc c'est difficile, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul disait, exerce-toi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de force même, d'insistance. Ce n'est pas quelque chose qui peut venir d'un seul coup. Tout ce que j'ai souligné ici, c'est des choses qu'on ne peut pas faire seul. C'est pour cela qu'on va demander l'aide du Saint-Esprit. Père éternel, nous te disons merci pour le message que tu as voulu nous passer ce midi, aujourd'hui. Seigneur Jésus, je sais que c'est le Saint-Esprit qui fait le grand travail. Et j'espère que même après cette prédication, il va continuer son travail. Seigneur, on sait que tu nous appelles à la piété. On sait que tu nous appelles à être saints. Et nous savons quoi faire. Mais des fois, les choses du monde nous attirent pris plus pour nous empêcher de faire ce qu'il fallait faire, pour nous empêcher vraiment de rester à notre cible. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, que ce soit ici sur place, que ce soit sur Zoom, tu vois dans son cœur ce qu'il te demande, ce qui lui manque, ce qu'il veut vraiment pour atteindre cette vie, ce mode de vie que nous voulons tous, que nous souhaitons tous, pour te plaire, pour vivre selon ta volonté. Je prie que le Saint-Esprit, Seigneur, intervienne dans nos vies. Seigneur, qui puisse nous donner cette force de nous engager, qui nous aide à être disciplinés dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Merci, Papa. Je sais que tu vas faire au-delà de tout ce que nous te demandons, parce que tu nous aimes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.